qu'on a tous beaucoup regardé ces derniers mois, évidemment. On s'est tous un peu pris pour des scientifiques, on a essayé de lire nous-mêmes des études. Vous allez nous expliquer ce matin comment on fait pour repérer une vraie d'une fausse étude scientifique. Mais d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est une fausse étude? Pourquoi est-ce qu'il y a des fausses études? Par qui elles sont écrites?
D'abord, il faut se souvenir qu'il y a à peu près entre 2 et 2,5 millions d'articles scientifiques qui sont publiés par année dans à peu près 28 000 journaux. Alors évidemment, les scientifiques doivent trouver un job, donc ils ont besoin d'un salaire, ils ont besoin de position. Et aujourd'hui, effectivement, l'attribution des postes est basée souvent sur le nombre de publications et la qualité de ces publications. Et donc, l'expression anglaise « publish or perish », c'est-à-dire « publier ou mourir », est ancrée dans tous les chercheurs, les jeunes chercheurs qui font leur thèse de doctorat. Et donc, effectivement, parfois, on est poussé, certains scientifiques sont poussés à publier à peu près n'importe quoi, de telle façon à augmenter en quelque sorte leur CV ou leur représentativité dans une discipline. Et effectivement, il y a eu un très bel article dans Le Monde d'ailleurs, qui rappelait et dont le titre était « Comment bien lire et comprendre une étude scientifique ?» Suivi d'ailleurs, c'était le 10 mai, ça a suivi d'une étude, cette fois-ci une étude scientifique, elle publiée le 25 mai dans le Journal of Association for Information Science and Technology, qui a été publiée par deux chercheurs, Guillaume Cabanac et Cyril Labbé, qui travaillent tous les deux à l'Université de Toulouse dans le département d'informatique, et qui ont publié une recherche, voilà un exemple d'article scientifique, une recherche sur une méthodologie capable de repérer automatiquement des articles faux, c'est-à-dire des articles écrits par exemple par des logiciels. Parce qu'il y a des logiciels que vous pouvez aller voir, par exemple Science Generator, c'est un logiciel qui a été écrit par trois étudiants qui voulaient faire un peu une blague, mais qui a très très bien marché.
Il y a vraiment des études qui ont été écrites par des logiciels qui sont publiés.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des articles complètement bidons qui ont été écrits par des machines. C'est intéressant au niveau informatique parce que ça permet de travailler ce qu'on appelle les grammaires, comment est-ce qu'une grammaire est structurée, etc. Mais ces articles ont été acceptés dans les journaux et donc comme publication. Ce n'est évidemment que bien plus tard, eux ont repéré à peu près 300 articles faux de ce type-là. Et après, évidemment, ces articles sont retirés de la publication des journaux et donc les journaux signalent effectivement qu'il y a une erreur, que c'est un faux article ou une fausse étude.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de comité de lecture. Enfin, rassurez-nous, il y a quand même des magazines scientifiques qui ont des vrais comités de lecture.
C'est-à-dire que c'est ça aussi le problème, c'est que les magazines scientifiques appartiennent à des groupes financiers importants. Par exemple, le groupe Springer qui fait presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Springer est propriétaire, par exemple, de la fameuse revue Nature. Et là aussi, il y a une incitation à publier pour l'éditeur. Parce que lorsque vous êtes un scientifique, vous faites un travail de recherche et à un moment donné, vous voulez le publier. Si cet article est effectivement accepté pour publication, c'est qu'il y a derrière ce qu'on appelle des référis, c'est-à-dire des personnes qui vont lire votre article et qui vont dire et vous juger si cet article est valable ou pas. Une fois qu'il est accepté, eh bien il faudra payer pour être publié. C'est-à-dire qu'il faut payer à peu près entre 2 000 et 8 000 euros pour que l'article soit publié. Et donc là, c'est de l'argent qui rentre évidemment dans les caisses de la maison d'édition. Et donc il y a comme ça une focalisation d'intérêt. D'une part, les scientifiques ont envie de publier pour améliorer leur CV et d'autre part les maisons d'édition ont besoin de publier parce que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Et donc effectivement c'est quelque chose d'important pour le public, à savoir si je lis une étude scientifique ou j'essaye de la comprendre, comment repérer effectivement si cette étude est sérieuse ou n'est pas sérieuse.
Bon alors comment on fait Pasquale?
D'abord il faut s'intéresser à la structure de l'article. Par exemple démarrer évidemment vous avez le titre, ok, le titre je sais pas, le Covid et l'amélioration de l'aspirine pour l'amélioration sur le Covid. Et après, il faut lire les auteurs. Et donc, dès que vous avez le nom des auteurs, voyez d'abord si ce sont de vrais auteurs scientifiques. Donc, repérez leur nom et leur affiliation, dans quelle université ils travaillent. À ce moment-là, vous pouvez vous aller sur le site internet de cette université et voir effectivement s'ils existent vraiment et s'ils travaillent vraiment dans ce département. Une fois que c'est fait, eh bien alors vous pouvez commencer à lire ce qu'on appelle l'abstract, c'est-à-dire l'introduction, le résumé en fait de l'article. Et puis, vous pouvez commencer à lire ce qu'on appelle le financement, c'est-à-dire par quelle source financière ces chercheurs sont payés. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des conflits d'intérêts. Je ne sais pas, quelqu'un qui est payé par une marque de cigarettes et qui publie que la cigarette est bonne, par exemple, pour la santé.
Donc dans un vrai article scientifique, il y a toujours les financements.
il y a une obligation de mettre les financements, les conflits d'intérêts, de mettre aussi qui a participé à l'article, c'est-à-dire quels sont les... Vous avez là, disons, 5-6 auteurs, ou parfois 20 auteurs, eh bien, ok, qui a travaillé vraiment sur l'article? Parce qu'il y a des conventions institutionnelles où, par exemple, le chef de service est toujours le dernier auteur, alors qu'il n'a rien écrit dans l'article, vous voyez, et qu'il ne porte pas la responsabilité scientifique de cet article. De même, il doit y avoir le nom de l'auteur qui sera responsable de la communication par rapport à cet article. C'est-à-dire à qui vous pouvez vous adresser par mail en disant ben, « j'ai lu votre papier, qu'est-ce que ça veut dire telle équation ou telle analyse ?» Et donc ensuite, vous pouvez travailler sur ce qu'on appelle les résultats et voir par exemple si les résultats sont proposés à travers ce qu'on appelle des données qui sont accessibles ou non. Et là, c'est un piège classique. C'est-à-dire que lorsque vous avez des chercheurs qui publient un résultat médical par exemple, mais que personne n'a accès aux données, ben, généralement, il s'agit probablement d'un faux article, parce que les données sont inaccessibles. Les scientifiques partagent les données. Alors évidemment, il y a là aussi un problème de conflit, parce que si les scientifiques travaillent, par exemple, pour une société pharmaceutique, la société pharmaceutique a, je dirais, un intérêt financier important, et ne va pas confier ces données à n'importe qui. Et donc là, il y a une discussion à avoir entre scientifiques pour avoir accès aux données. Et c'est comme ça que certains journaux, comme par exemple Nature, ont retiré certains articles, par exemple sur certains médicaments par rapport au Covid-19, puisqu'ils n'avaient pas accès aux données et que donc probablement les données avaient été fabriquées.
Bon, ça veut dire que déjà Nature, on sait que globalement on peut leur faire confiance.
Oui, globalement on peut leur faire confiance.
Parce qu'effectivement, ils font ce genre de choses. Peut-être une dernière chose, Pasquale, quand on sait que la source est bonne et fiable, qu'on a vérifié tout ce que vous venez de dire, encore faut-il savoir si l'étude qu'on est en train de lire... fait vraiment science ou si c'est une étape dans une recherche? Est-ce qu'on peut vraiment en tirer des conclusions? Parce que c'est ça aussi, il y a des recherches qui montrent telle ou telle chose, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut faire des généralités? Et ça, comment on peut savoir?
Eh bien parce que dès que vous travaillez dans une discipline, par exemple médecine, physique, mathématiques, il faut savoir si la discipline est dans une situation de spéculation, et ça vous voyez tout de suite dès qu'on fait des études de corrélation par exemple, où on corrèle telle donnée avec telle autre donnée, une corrélation n'est pas une loi. Et donc dès qu'on dit, bah voilà, on trouve qu'il y a une corrélation entre les accidents de voiture et le nombre de magasins IKEA par exemple dans une ville, eh bien certes cette corrélation va vous paraître absurde. Par contre il y a des corrélations qui peuvent titiller l'esprit humain, mais une corrélation n'est pas une loi. Et donc il faut pouvoir repérer ce qu'on appelle des sciences spéculatives, comme l'épidémiologie par exemple, bah, toutes ces personnes parlent un peu sans loi scientifique réelle par rapport à une loi plus rationnelle. Si on vous parle de la gravitation, eh bien désolé, la gravitation n'est pas spéculative, c'est un fait mesurable. Mmh. Là aussi, il faut repérer si les données sont des vrais faits expérimentaux mesurés ou ce sont des évaluations un peu complexes, comme par exemple l'étude des coefficients intellectuels, par exemple, ou des QI. Eh bien ça, c'est spéculatif, non seulement spéculatif, mais c'est pas une vraie mesure factuelle. Et donc là aussi, on peut repérer si c'est une science rationaliste, rationnelle, mesurable, ou simplement spéculative.
Bon, eh bien, merci beaucoup, Pasquale.